Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on s'attaque à la mécanique du transhumanisme avec pièces et main-d'œuvre. Ça fait plusieurs années qu'à Terre à Terre, on reçoit régulièrement des textes d'un groupe qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, groupe dont on ne sait pas exactement de qui il est constitué, de combien de personnes. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des textes toujours extrêmement forts, avec lesquels parfois on peut être en désaccord, mais qui tous suscitent des questions, des réflexions, et qui très souvent mettent sur la piste de problèmes ou d'inquiétudes qu'on n'aurait pas nécessairement eues par soi-même. Aujourd'hui, je vous propose de nous parler de vous. Alors, ça va commencer de manière assez comique, puisque pièces et main-d'œuvre ne souhaitent pas avoir d'identité plus personnalisée que cela. Et donc, puisque vous êtes aujourd'hui deux avec nous, je vous propose de vous appeler l'un pièce et l'autre main-d'œuvre, si ça vous convient. Et donc, c'est ainsi que nous démarrerons l'entretien. Peut-être pourriez-vous déjà nous raconter comment pièce et main-d'œuvre est née et quand. Alors, pièce.
Oui, d'accord. Quand, c'était il y a une quinzaine d'années déjà. Et comment, c'est parti du fait qu'on n'est pas indemne de l'endroit où on vit. Nous, on habite à Grenoble. On vivait paisiblement à Grenoble. On lisait, on allait en montagne. On vivait, quoi. Et on essayait de s'abstraire du monde dans lequel on vivait, de la ville dans laquelle on vivait, pour se concentrer sur nos activités.
Pourquoi est-ce qu'il fallait s'abstraire de la ville où vous viviez ?
Je n'aime pas ma ville, mais je n'aime aucune ville. La seule ville en France, peut-être, où j'aurais eu une faiblesse à un moment donné, c'était Marseille. Et depuis l'arrivée du TGV, c'est fini. À mon avis, c'est la seule vraie ville en France. Bon. Grenoble, il se trouve que c'est la ville de ma jeunesse, et c'est là où je suis revenu après pas mal de tourisme et de séjours à l'étranger. Bon, j'y suis, j'y vis, j'y lis, et j'essaie de m'abstraire de ce qui m'entoure, pas des montagnes, mais de la ville elle-même. Et malheureusement, il paraît qu'il y a des gens qui sont capables de s'abstraire vraiment et de vivre simplement de leur vie intérieure. Et moi, je suis complètement poreux, je suis complètement perméable, et je suis complètement intolérant à ce qui m'entoure et ce qui m'envahit.
En l'occurrence,
tous les débordements modernes, et spécialement sous leur forme technologique. Et Grenoble étant historiquement la mère de toutes les technopoles en France, c'est la première ville qui a fabriqué une entité administrative qui s'appelait Technopole. On était aux premières loges pour observer le phénomène, le décrire et l'analyser.
Main-d'œuvre ?
Moi, il se trouve que je suis grenobloise et que j'ai des souvenirs de mon enfance dans cette ville qui font que j'ai vu l'accélération de la transformation. Et c'est aussi ça qui a éveillé une interrogation et une envie de comprendre ce qui se passait dans cette ville. Parce que en très peu de temps, même si l'histoire du laboratoire grenoblois est déjà ancienne, comme tout s'accélère, et singulièrement l'accélération technologique elle-même s'accélère et donc transforme cette ville, j'ai vu changer ma ville, comme disait l'autre, plus vite que le cœur des hommes, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne reconnaît plus l'endroit où on a grandi. Et donc il y a cette, quand on est curieux, en tout cas, cette envie de comprendre quelles sont les forces à l'œuvre pour une transformation aussi radicale.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'entrée de jeu, vous donnez deux des caractéristiques qu'on retrouve effectivement dans tous vos textes, la révolte et l'envie de comprendre, l'analyse.
Ça, c'est pas une question. Enfin, moi, c'est un constat. C'est
vrai qu'on n'est pas obligé de questionner tout le temps.
Non. C'est vrai que moi, je suis souvent frappé par le peu de révolte. Même des gens qui se disent activistes, militants, des groupes, j'ai plutôt l'impression d'une existence paroissiale. Ils font partie d'un groupe, ils font partie d'un comité, d'une association, ils vont à des réunions, ils font des soirées, ils mangent des quiches ensemble, ils s'amusent, ils débattent. Mais il n'y a pas ce côté, viscéral. Peut-être que je suis primaire, hein, mais il n'y a pas ce côté viscéral que moi, je ressens.
Peut-être parce qu'il est difficile à vivre.
Peut-être que c'est ça, vivre. Enfin, moi, je ne sais pas vivre autrement. Et l'analyse, c'est quelque chose qui, en tout cas en ce qui me concerne, qui m'est venu tardivement, parce que je suis plutôt quelqu'un dans un registre lyrique et à pousser des hauts cris. Mais je me suis retrouvé face à des gens, aussi bien dans les groupes politiques que parmi nos ennemis, hein, ce qu'on décrit sous le nom de système, qui, eux, pensaient beaucoup et qui raisonnaient beaucoup et qui peuvent vous clouer le bec dans une réunion publique simplement parce qu'ils ont les faits et les idées qui lient les faits entre eux. Et donc, on est obligé, si on veut se donner raison à soi-même, si on veut se donner raison à sa propre révolte, on est obligé de l'articuler et donc de la fonder en raison, d'aller chercher les faits et les liens entre les faits qui donnent raison à votre instinct de révolte.
Je voulais ajouter aussi que comprendre, c'est aussi déjà avoir une prise sur le réel. C'est commencer à se dire qu'on peut quelque chose éventuellement. Il faut d'abord comprendre. Et en effet, je pense qu'il y a d'abord quelque chose de l'ordre de la révolte, spontanée, viscérale en effet. C'est quelque chose qui est physique, quasiment, hein. Mais ensuite, la démarche de comprendre, de chercher, de raisonner, permet de ne pas être submergé par cette révolte dans le sens de qu'est-ce qu'on y peut, on peut rien faire, et puis de se lamenter. Je crois qu'on est des gens qui n'avons pas envie de nous lamenter. Et comprendre, ça aide à avoir une prise.
C'est toute la différence entre la lucidité et le catastrophisme. J'aimerais peut-être que vous nous donniez des exemples de ce sur quoi vous avez commencé à travailler et comment est-ce que vous avez commencé ce travail. Main d'œuvre ?
Alors tout ça a commencé au début des années 2000. Donc comme on le disait, parce que nous vivons à Grenoble et que nous avons commencé à nous intéresser à ce qui s'y passait. Ça a commencé sur un cas très précis qui était l'existence en pleine ville d'un laboratoire militaire. En fait, la découverte de ce laboratoire qui était le centre de recherche du service de santé des armées en pleine ville. Et on découvre un jour dans la presse locale, hein, tout simplement, que dans ce laboratoire, dans le Daubé, pour ne pas le nommer, c'est ainsi qu'on appelle ici le Dauphiné libéré, on découvre donc que dans ce laboratoire, il y a des expériences qui sont menées sur des armes bactériologiques et chimiques, donc les NBC, hein, nucléaires, bactériologiques, chimiques, qu'on fait aussi des expériences pour les soldats qui vont combattre dans des conditions extrêmes. Et tout ceci se fait non seulement en pleine ville, mais avec la participation d'équipes de recherche civile, donc du CHU, de l'université locale, etc. Tout ce monde-là travaillant avec les militaires, en parfaite harmonie, et sans qu'on en sache rien, finalement. Donc on a décidé de se renseigner, de comprendre justement ce qui se passait dans ce laboratoire. Et comment on a pu travailler de façon très simple, ça a commencé par la lecture de la presse. On s'aperçoit que jour après jour, la presse, même aussi mauvaise soit-elle, en l'occurrence, le Daubé, c'est quand même pas des lumières, mais distille chaque jour des petites informations. Ça peut être l'interview d'un directeur de laboratoire, ça peut être une petite brève qui annonce que telle recherche est menée dans tel endroit, etc. Donc le Dauphiné est libéré, la presse, disons, plus professionnelle, par exemple la Chambre de commerce et d'industrie qui a son bulletin, la presse institutionnelle des collectivités. Puis, petit à petit, les conférences, on s'aperçoit, quand on commence à regarder, que dans cette ville, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une, deux ou trois conférences dites de vulgarisation scientifique, dont l'objet est surtout de pétrir l'opinion. Hein. C'est des chercheurs qui font des conférences sur leurs recherches, etc. Si on commence à découper les articles, à les classer dans des chemises par thème, à aller aux conférences, à prendre des notes, puis petit à petit à tirer ce fil d'informations, on peut constituer des dossiers de faits. Ce sont des faits qu'on stocke, qu'on met ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé sur le fameux CRESA. Donc, voilà. Et puis, le CRESA, on s'aperçoit un jour qu'il est impliqué dans la création d'une pépinière d'entreprise dédiée aux biotechnologies, qui s'appelait Biopolis, en 2001, de mémoire. Et on est parti de là, de Biopolis, donc les biotechnologies. Et puis, déjà à cette époque, on commence à apercevoir des projets, parce que les élus, les décideurs sont assez contents de ce qu'ils font. Ils ne s'en cachent pas, au fond, et ils le disent. Petit à petit, dans la presse, on voit apparaître l'idée de financer quelque chose qui s'appelle Minatech, qui serait un pôle européen de recherche sur les nanotechnologies. Et là, dès le début des années 2000, on voit apparaître le mot nanotechnologie. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et c'est comme ça qu'on est tombé dessus.
Vous êtes tombé dessus, mais vous ne saviez pas ce que c'était.
Non, au début, on ne savait pas ce que c'était. On a lu des livres, on a été aux conférences. Bon, c'est devenu rapidement assez clair. Hein. En fait, c'était pas très compliqué à comprendre. Une fois qu'on a compris que nano, ça veut dire tout petit, qu'un nanomètre, c'est...
Un milliardième de mètre.
Un milliardième de mètre, je m'en souviendrai jamais. Bon, c'est technologie de l'infiniment petit. Bon. Non, mais c'est important ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas des espions. On n'est pas des espions. 99% de ce qu'il y a à savoir est dans le domaine public.
Voilà. Et j'allais le dire autrement. Vous n'êtes pas des espions, certes, mais ce qui est assez impressionnant dans ce que vous racontez, c'est que la première chose que vous avez faite, ça a été de secouer le voile de l'indifférence. C'est-à-dire ce regard qui glisse sur les articles, qui ne s'y arrête jamais. Vous, vous vous êtes astreint à lire ce qui est effectivement là, sous les yeux.
La PQR, la presse quotidienne régionale, bon, ici c'est le Daubé, ailleurs c'est l'Est républicain ou la Marseillaise, je ne sais pas. Bon, c'est passionnant, c'est une mine.
Plus que la presse nationale, pour ce genre d'informations.
Bah oui, parce que l'intérêt, on marie les deux, hein, on lit aussi la presse nationale. L'intérêt de la presse locale, c'est qu'elle nomme. Elle nomme les gens, les labos, et ça c'est très important parce qu'on s'aperçoit que ce ne sont pas des processus désincarnés. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer, c'est que tout ceci fait partie de programmes décidés, incarnés par des personnages, qui prennent des décisions dans des réunions qu'on peut identifier à tel endroit, tel jour, etc. Tout ceci a une existence réelle et n'est pas loin de nous.
Ni désincarnation, ni démembrement. C'est-à-dire que de fait, vous établissez ensuite des liens entre les différents événements, pièces.
Oui, enfin, oui, là, je suis un petit peu perdu. Mais...
Vous pensiez à quoi, là ?
Non, j'étais en train de poursuivre le fil précédent. Et ce que je me disais, c'est que ce qu'on a fait surtout, on a fait attention. Et on a fait attention à l'endroit où on vivait et à ce qui s'y passait. Quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte. Normalement, ça devrait être ça, la politique. Normalement, c'est ça, la politique. On peut quelque chose là où on est et aux choses qui nous entourent, là où on a fait quelque chose, là où on pouvait quelque chose. Et où est-ce qu'on pouvait quelque chose? C'était là où on vivait. Et donc, on a fait attention à l'endroit où on vivait et on a pris la communication locale au mot. Bon, vous nous demandez de participer, vous nous demandez d'être des citoyens, vous demandez d'être interactifs, vous demandez... Très bien, on va le faire. Et on a pris au mot aussi... Tous les groupes, comités, etc., qui nous disent penser global, agir local, c'est bien comme dans ce temps-là, agir ici et maintenant. On a dit, bon, très bien, on va le faire. Donc, on part de là où on est et on a pris ça au sérieux. Ça nous a permis de comprendre, on ne comprend jamais complètement, puis ça bouge tout le temps, mais de comprendre la technopole. Et en quelque sorte, à partir des os qu'on ramassait, des ossements qu'on ramassait, tel laboratoire, telle recherche, tel programme de recherche, tel financement public, Minatech, c'est énorme de ce point de vue-là. Ou STMicro, encore plus, c'est exemplaire, cette histoire.
STMicro, qui est-ce ?
STMicro, à l'origine, c'est un SMH, une start-up du commissariat à l'énergie atomique. Ça remonte aux années 60. On a besoin de silicium durci pour travailler en environnement radioactif. On n'a pas ça en France. Donc le commissariat à l'énergie atomique, ou plutôt son laboratoire, le LETI, qui est son laboratoire d'application industrielle, détache 80 ingénieurs avec des financements idoines pour créer une entreprise qui s'appelle F6, qui fabrique du silicium durci, hein, les sous-marins, les centrales, etc. Bon. Et ça, c'est une boîte qui va grossir, jusqu'à devenir, par un jeu de fusion avec des boîtes italiennes, etc., aujourd'hui, ST Microelectronics, c'est-à-dire le plus gros fabricant, la plus grosse entreprise de semi-conducteurs européenne, cinquième producteur mondial. Et là, on est dans un secteur qui est à la fois le secteur d'avant-garde des technologies. Hein, sans les semi-composants, sans les chips, sans les puces, on ne peut rien faire. La société moderne s'arrête. Donc c'est l'objet emblématique de la société technologique. C'est un secteur à très très forte capitalisation. C'est le secteur d'avant-garde du capitalisme. Bon, à telle enseigne que pour fabriquer maintenant une fonderie industrielle de puces, il faut mobiliser des capitaux énormes. Une entreprise seule ne peut pas y arriver. Donc, pour créer Alliance, le groupe Alliance qui fabrique ses puces à Crolles, à côté de Grenoble, il a fallu qu'ils mettent ensemble Motorola, STMicroelectronics et Philips. Bon, à l'origine, c'était Philips. Et ça a coûté plus de 3 milliards d'euros, c'est-à-dire le plus gros investissement industriel en France depuis la dernière centrale nucléaire. Et sur ces 3 milliards d'euros, il y a 543 millions d'euros de financement public. C'est-à-dire qu'il y a des financements de l'Europe, il y a des financements de l'État français, de la région Rhône-Alpes, de toutes les collectivités locales, le département, bon. C'est fantastique, quoi. Enfin, bon.
En fait, ce que tu disais, c'est qu'à partir d'ossements, oui. L'image qu'on prend quelquefois, c'est comme les paléontologues, c'est-à-dire qu'à partir d'ossements qu'on trouve dans la presse, ou à droite à gauche, de morceaux, comme ça, on essaye de reconstituer le squelette de qu'est-ce que c'est que le laboratoire grenoblois. Ce fameux laboratoire grenoblois qui, depuis les années 60, est mis en avant partout, qui sert de modèle, les fameux clusters, ensuite, quand on a fait les pôles de compétitivité, etc., c'est toujours sur le modèle grenoblois. Nous, on a essayé de le décortiquer pour le comprendre et comprendre ce que signifiait ce slogan local qui est toujours la synergie, le triptyque, recherche, industrie, pouvoir public, auquel il faut ajouter l'armée, qu'on ne nomme jamais, mais qui est toujours là. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on a fait, c'est-à-dire expliquer, décortiquer en petites pièces pour
enfin, à partir expliquer, des petites pièces.
Voilà, et ensuite reconstituer le squelette. Eh bien, comment ça marche? C'est-à-dire que ce qu'on nomme progrès technologique, ce qu'on nomme modernité, mettez le nom que vous voulez,
innovation,
n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, n'est pas un phénomène naturel qu'on ne peut pas arrêter parce que, comme la pluie, il vient, il tombe d'ailleurs. Non, tout ceci découle de programmes qui sont décidés,
volontaristes.
Oui, volontaristes, planifiés, avec des, comme je disais tout à l'heure, des responsables, des noms, des budgets, des financements.
Noms.
Alors évidemment, on peut vous citer la figure locale tutélaire du laboratoire grenoblois depuis 30 ans, qui s'appelle Jean Terme, qui est le patron du CEA Grenoble, du Commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, mais qui est aussi quelqu'un qui est missionné auprès de la Commission européenne, qui dirige un groupe que personne ne connaît, de gens qui ne sont pas élus, qui sont des technocrates, et qui sont, eux, ceux qui disent à l'Europe, voilà les secteurs technologiques dans lesquels il faut investir. Jean Terme a ce pouvoir-là. Personne ne le connaît. Donc c'était intéressant, à un moment donné, de faire son portrait, de raconter son parcours, et de dire ce qu'il avait fait à notre ville, parce que c'est ce qu'il fait à nos vies, à tous.
Et voilà, c'est là qu'intervient l'autre élément de PMO, pièce et main-d'œuvre, qui a été le premier d'ailleurs que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la révolte. Parce que de fait, là vous nous dressez un portrait de la manière dont ce réseau technologique s'est constitué, et j'imagine qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui peuvent être fascinés, admiratifs devant cette réussite grenobloise. C'est en tout cas comme ça qu'elle est vantée dans toute la presse, dans les médias, partout, dans tous les discours, aussi bien par les pouvoirs publics que par les médias, de fait. La révolte, c'est que ce système a des conséquences sur l'environnement, mais, et je trouve que c'est un des traits vraiment fondamentaux chez vous, également sur les sociétés et sur l'humain.
On a encore enfoncé, on a enfoncé une autre porte ouverte. Hein. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait des découvertes. Enfin, j'ai fait des découvertes personnellement, mais j'ai découvert ce que des tas de gens avaient dit avant nous. On peut remonter au vieux grand-père barbu, genre Karl Marx, dans le manifeste communiste, dit clairement la bourgeoisie ne peut pas survivre sans révolutionner constamment les rapports de production, les instruments de production, et donc les rapports sociaux. Depuis, on est passé du capitalisme industriel à vapeur qu'avaient décrit les marxistes, enfin Marx, Engels et l'école marxiste, durant la Seconde Guerre mondiale et après, à un capitalisme technologique. La technologie transforme nos vies. La technologie transforme nos villes. La technologie transforme le monde. La technologie transforme nos corps. La technologie transforme les rapports entre les êtres humains. Les technologies transforment les rapports que les êtres humains entretiennent avec eux-mêmes. Bon. Elle transforme tout. Donc, qu'est-ce que c'est que la technologie? La technologie, en fait, c'est la politique de notre temps. Donc, on a été amené à dire: la technologie, c'est le front principal de la guerre entre le pouvoir et les sans-pouvoirs. Ce qu'on voulait dire par là, c'était tout ce qui se passe sur le front technologique réagit en cascade sur tous les aspects de notre vie. Et donc, il faut porter la plus grande attention à la technologie, parce que la technologie commande. Il n'y a aucun aspect de la vie sociale, économique et politique. Il n'y a aucune thématique, quelle que soit la thématique qu'on trouve sur un site indie média ou n'importe quoi, que ce soit la cause animale, la cause homosexuelle, la cause des femmes, quel que soit l'angle qu'on envisage, la technologie impacte, frappe cette thématique et la transforme au premier chef.
Bon, vous pourriez nous donner un exemple, main d'œuvre.
Je pense aux militants qui, ces jours-ci, défilent, par exemple, contre la loi travail. La manière dont ils s'organisent a été complètement modifiée par le fait qu'aujourd'hui, ils utilisent tous le téléphone portable, les réseaux sociaux, Internet et tous les moyens technologiques. Ce qui signifie que, par exemple, d'un point de vue, puisque c'est ça qui les préoccupe, par exemple, concrètement, matériellement, dans l'organisation de leur mouvement, la surveillance dont ils font l'objet, la surveillance policière, éventuellement la prévention de mouvements sociaux, etc., est complètement modifiée par le fait qu'ils donnent eux-mêmes au pouvoir toutes les informations de façon très simple et facile, puisqu'il suffit d'avoir un aspirateur à données. Aujourd'hui, les aspirateurs à données électroniques sont...
En vente en grande surface.
Exactement, chez Darty, la police s'approvisionne là, pour être absolument transparent aux yeux du pouvoir. Mais ça, c'est la façon, je dirais, évidente de voir les choses. Mais si on va un peu plus loin dans l'analyse, on s'aperçoit que les rapports entre eux sont changés et que, au fond, on croit aujourd'hui que parce qu'on a fait 1 million de signatures virtuelles sur un site internet, on va transformer une situation. Bon, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face et ça n'est pas ça qui se passe. Le problème de ces technologies-là, de l'information et de la communication, c'est qu'elles font croire aux gens qu'elles facilitent la communication et la circulation d'informations, alors que c'est l'inverse qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire qu'au contraire, elles ont coupé la communication directe entre les gens, elles ont coupé un certain nombre de capacités qu'on avait, je n'ose pas dire de façon naturelle, mais en tout cas qu'on pouvait avoir en soi, et qu'elles nous ont amputé d'un certain nombre de savoir-faire qui, par exemple, dans l'organisation des militants, se fait sentir. C'est-à-dire que les gens ne sont plus capables de faire par eux-mêmes, ils ont besoin de la médiation de la prothèse électronique pour tout faire. Ça a modifié leur cerveau, leur comportement. Moi, je le vois sur moi-même. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas indemne du monde dans lequel on vit. J'ai constaté sur moi-même que l'usage obligatoire de l'informatique, puisqu'on n'a pas le choix, ou très peu, avait modifié mes capacités de mémoire, de concentration, etc. Enfin, n'importe qui peut, je crois, avec honnêteté, faire ce travail-là d'introspection et voir ce que ça a modifié en lui.
Pièce.
Oui, non, mais ça, moi, je me rappelle avoir entendu Alain Krivine dire, mais c'est très bien le téléphone portable. Avec le téléphone portable, on peut diriger une manif, on n'a plus besoin, bon, etc. Mais c'est pas ça la question. Si on prend, par exemple, revenons sur cette loi El Khomri. Bon, ces gens protestent contre leur précarisation. Ce qui n'est pas analysé, c'est que cette précarisation découle, en fin de compte, du changement du mode de production. C'est parce qu'on introduit les robots, c'est parce qu'on introduit les logiciels, c'est parce qu'on introduit l'automatisation, que finalement, ils deviennent superflus. Ils deviennent largement superflus. C'est-à-dire que leur pouvoir, le pouvoir de négociation, de bargain, le pouvoir de le rapport de force entre les employeurs potentiels et les employés potentiels, est gravement affecté par l'automatisation générale. Et là, on voit dans la rue défiler des gens qui, par ailleurs, sont pour les machines, sont pour la technologie. Ils sont progressistes. Ce qu'on ne dit jamais assez sur le laboratoire grenoblois dans les années 60, c'est que c'est une collaboration, au point de vue politique, c'est une collaboration entre les mandésistes et les gaullistes, les deux grands courants progressistes français de l'après-guerre.
Également dénommés gauche et droite.
Oui, mais enfin, la gauche ne se réduisait pas aux mandésistes et la droite ne se réduisait pas aux gaullistes.
Oui, mais de fait, c'était effectivement les catégories qui étaient...
Oui, mais il y a toujours eu, entre mandésistes et gaullistes, une grande connivence et un grand respect mutuel. Hein ? C'est toujours des gens qui ont travaillé main dans la main quand les grands sujets techno-industriels venaient sur la table. Bon, et Grenoble a été un exemplaire. Dubedou et De Gaulle, c'était...
C'est un fait qu'on a aussi mis en avant, que la technologie... On dit la technologie n'est pas neutre, c'est-à-dire que quels que soient les bons et les mauvais usages, elle transforme le monde et ça n'est pas neutre. En revanche, d'un point de vue politique...
Vous dites même plus précisément, et j'aime beaucoup cette phrase, que la technologie n'est pas neutre, neutre étant du latin né ou terre, ni l'un ni l'autre. Elle est en fait ambivalente, elle est et l'un et l'autre. Oui. Je trouve ça très intéressant.
Ça, on a toujours les bons et les mauvais usages, il n'est pas possible de les distinguer. C'est comme l'avers et le revers d'une pièce, on a les deux en même temps. Mais ce qui est plus important à dire, c'est que quels que soient les bons et les mauvais usages, elle transforme le monde d'une certaine manière et pas d'une autre. Et donc, en cela, elle n'est pas neutre. En revanche, du point de vue politique, ce qu'on disait là sur Grenoble est valable aussi au niveau national, on pourrait dire qu'elle est neutre au sens où gauche et droite, en effet, sont d'accord, partagent à peu près, et d'ailleurs gauche et droite de façon très large, c'est-à-dire de l'extrême gauche à l'extrême droite, les partis politiques, disons, traditionnels de l'échiquier politique français, et même ailleurs, sont à peu près tous sur la même ligne au niveau de la technologie. Pourquoi ? Parce que la technologie, c'est l'innovation, que l'innovation, c'est le moteur de la croissance économique et de la compétition internationale. En quelque sorte, il y a un consensus sur le fait que nous devons accélérer les innovations technologiques pour rester dans la course. Donc là, de ce point de vue-là, effectivement, entre les parties, il n'y a pas de différence sur ce sujet.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
PMO, pièce et main-d'œuvre. Une raison pour lesquelles je suis venue vous rencontrer, c'est un texte que j'ai trouvé particulièrement important, un texte récent de vous, intitulé « Machines arrière ». Machines arrière, en fait, si on fait la liaison. Dans ce texte, vous évoquez une question qui vous est souvent posée. Une révolte est-elle encore possible? Et si oui, comment? Et comment faire? Et vous analysez très précisément, en reprenant certains des éléments que vous avez déjà évoqués dans notre conversation, la situation et les difficultés qu'il y a aujourd'hui à imaginer une révolte contre ce système technologique. Plus exactement, vous parlez d'alliage entre la technologie et le capitalisme. Il ne faut pas oublier la partie économique, financière de cette affaire. Mais vous avez prononcé un maître mot, pièce, me semble-t-il, c'est le mot de superflu. Les gens, les humains, les travailleurs sont devenus superflus et ils le sont devenus dans des proportions tout à fait fracassantes, puisque vous dites qu'aujourd'hui 1% de la population se partage 99% des richesses et 99% des autres se partagent très difficilement le 1% restant, devenant de fait inutile pour la production, via l'automatisation, via les machines, via tout ça, mais également insolvable pour la consommation et donc effectivement doublement superflu.
Oui, enfin, moi, c'est là encore, on n'est pas le seul à le dire. Hein. Il y a des gens qui le disent sous une autre forme. Il y a un auteur qui s'appelle Achille Mbembe, qui parle des nègres, il parle du devenir nègre du monde. Il a fait un livre il y a un an ou deux à la découverte là-dessus. Il y a une sociologue hollandaise qui parle des exclus, qui dit qu'il y a de plus en plus d'exclus. Bon, sous des formes différentes, c'est quelque chose qui est perçu par de plus en plus de monde. Et d'abord par les premiers intéressés, c'est qu'on n'a plus besoin d'eux. Là encore, la main-d'œuvre, les esclaves ne sont plus intéressants.
Trop chers.
Oui, ils ne sont pas concurrentiels par rapport aux machines. Bon, d'abord, les esclaves d'Occident ne sont pas concurrentiels par rapport aux esclaves d'Asie ou d'Afrique. Bon, mais c'est quelque chose qui bouge très très rapidement. C'est-à-dire que déjà, les salaires chinois dans certaines zones sont équivalents aux salaires roumains, polonais, et donc la Chine déjà délocalise au Bangladesh ou en Éthiopie. Mais il y a quelque chose qui va encore plus vite que ça, c'est l'automatisation, qui pulvérise la capacité de négociation des travailleurs. Donc effectivement, ils deviennent superflus, ça ne devient pas intéressant de leur fournir un salaire. Et comme ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas consommer. Donc ils ne peuvent même pas acheter les produits qu'ils fabriquaient autrefois. Alors des gens disent « Ah ça, c'est une excellente nouvelle, parce que on retrouve le confort théorique de la prédiction marxiste. Bah, » C'est bien ce que Marx avait dit. D'un côté, les plutocrates vont ramasser toute la richesse du monde, hein, concentrer tout le capital du monde. Et d'autre côté, tout le monde sera prolétaire. Et donc, d'une pichenette, les prolétaires n'auront plus qu'à s'organiser pour virer les plutocrates et faire marcher à leur place les moyens de production et d'échange. Sauf que il y a des gens qui continuent à penser ça. Il y a des gens qui continuent à penser ça, qui se disent communistes. Bon, moi, personnellement, j'ai pas envie de faire marcher à mon profit des centrales nucléaires et le réseau Internet. Il n'y a rien à récupérer de ça. Ça n'a aucun intérêt. Mais même si on met cet aspect de côté, comment vont vivre ces gens dont on n'a plus besoin ? Alors, le concours Lépine théorique a accouché d'un nouveau lapin qui est le revenu garanti. On va donner à tout le monde un revenu garanti minimal, et ainsi, bon, on leur maintient la tête hors de l'eau. Évidemment, cette idée est, comment dire, abominable. Ça revient à mettre la masse des gens à la merci de la charité des plutocrates, donc à les mettre en état de dépendance totale. Ça sécrète un avilissement, une perte de dignité qu'on n'avait pas connue depuis la plèbe romaine, qui n'était pas renommée pour ses capacités civiques et intellectuelles, hein, du pain et des jeux, des allocations de blé. Bon, donc on a ça, Internet et le RSA. Bon, je m'empresse de préciser que j'ai le RSA. Donc je crache dans la soupe. Et d'autre part, même dans ces conditions-là, combien de temps ça va durer ? C'est-à-dire combien de temps l'élite techno-capitaliste, sur une planète surpeuplée, sur une planète en danger, sur une planète où toutes les ressources sont en voie de disparition, va supporter de nourrir des bouches inutiles et des bouches nuisibles. Enfin, des gens qui consomment malgré tout de l'eau, de l'air, une alimentation certes détestable, mais quand même il faut la fabriquer, qui font concurrence pour l'espace. Bon, moi je pense qu'à terme, ils préféreront s'en débarrasser. Alors après, comment vont-ils s'en débarrasser ? Ça, c'est une autre question.
Main-d'œuvre.
Mais c'est là sans doute qu'il faut parler de transhumanisme, parce qu'il y a peut-être une solution du point de vue de l'élite technocratique à ce problème-là, avec le projet transhumaniste qui consiste, au fond, à scinder l'humanité en deux espèces, étant entendu que l'une supérieure à l'autre en viendra à bout. Je synthétise le projet, mais pour les transhumanistes, l'idée est de fabriquer un homme augmenté, un homme supérieur. C'est toujours la même idée du surhomme, mais cette fois-ci, elle devient concrète et palpable avec la technologie, c'est-à-dire que l'hybridation des hommes et des machines permet de fabriquer le cyborg, cet organisme mi-biologique, mi-cybernétique, doté de capacités supérieures. Et ce que disent une partie des transhumanistes historiques, notamment, je pense à Hans Moraviec et mais à d'autres, ou à Kevin Warwick, l'anglais, c'est que ceux qui ne s'augmenteront pas, soit parce qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne le peuvent pas, formeront une sous-espèce. Alors Warwick dit que ce seront les chimpanzés du futur, terme qu'on a repris nous en se réclamant des chimpanzés du futur, mais Moraviec est beaucoup plus cynique que ça, parce qu'il dit mais au fond ça sera comme les dinosaures. Qui pleure les dinosaures aujourd'hui ? Personne. Donc en prenant en main l'évolution, c'est-à-dire qu'en substituant au phénomène naturel de l'évolution une volonté de toute puissance aidée par la technologie, les transhumanistes en fait espère se débarrasser de la partie superflue de l'humanité. C'est ça le projet transhumaniste, c'est un projet eugéniste. Donc la question des superflus qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas de travail, etc., trouve une solution...
Naturelle.
Naturelle, si on ose dire, mais au fond, dans le projet politique des transhumanistes.
J'aurais continué. Après tout, depuis 1000 ans, 4000 ans, 10 000 ans, toutes sortes de peuplades ont disparu. Des peuples ont disparu. Certains, on a dit d'extinction naturelle, mais ils ont disparu, on ne sait pas comment. Bon, ça remontait à la préhistoire et à Néandertal. Bon, des tas d'espèces ont disparu, des espèces animales. Bon. Donc, on pourrait par exemple imaginer que cette épidémie de stérilité qu'on voit apparaître dans les pays industrialisés et qui s'étend permettrait de venir à bout de la sous-espèce, la surespèce se réservant le droit à la reproduction artificielle de l'humain, enfin du surhumain, par les moyens technologiques qu'elle maîtrise. L'essence du projet transhumaniste, la description, on peut la retrouver dans un excellent roman qui date de 1969 de Norman Spinrad, qui s'appelle « Jacques Baron et l'éternité ». C'est un livre étonnant où Norman Spinrad décrit comment les plutocrates arrivent à s'approprier, grâce à la science, les secrets de l'immortalité et à faire crever les autres pour qu'eux puissent vivre. Et c'est ça le projet.
Alors là, on peut se dire, on est en pleine science-fiction, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais c'est là, pièce et main-d'œuvre, que j'aimerais qu'on fasse la boucle et qu'on revienne à ce que vous nous expliquiez au début, c'est-à-dire votre travail d'enquête critique sur ce qui se passe autour de vous et sur ce que vous voyez, c'est-à-dire d'enquête sur les faits et non pas sur les élucubrations ou les interprétations ou le complotisme ou je ne sais quoi. Et cette question du transhumanisme est effectivement très intéressante pour parler de cet aspect des choses, puisque le transhumanisme, il y a 15 ans, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui encore, je pense que beaucoup de gens ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Tandis que ce transhumanisme-là, il s'est complètement infiltré dans nos existences, dans nos réalités et surtout dans les esprits et les espoirs d'une bonne partie des élites financières, politiques, médiatiques. Et tout cela avec des conséquences déjà bien réelles que vous voyez ici même à Grenoble. Alors il faudrait peut-être nous en parler un peu pour qu'on s'aperçoive que vous n'êtes pas juste en train de nous raconter du Spinrad revisité.
D'abord, le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ? Le transhumanisme, c'est l'idéologie de la technocratie à l'ère du capitalisme technologique. C'est ça le transhumanisme. Bon. Et après, comment ça se met en place ? Ça se met en place grâce à la fusion de la science et du capital. Savoir, c'est pouvoir. Avec le pouvoir, avec la science, on peut tout. Sans la science, on peut rien. Mais la science a un coût. Donc, le capital finance la science en tant que force productive capable de transformer le monde. Et les scientifiques qui ont maintenant la double casquette, qui sont souvent, ils sont directeurs de laboratoire, mais ils font une start-up, mais la start-up se transforme en multinationales, etc., sont pleinement intégrés à la classe capitaliste. Bon. Les capitalistes, c'est plus simplement des gens à gros ventre avec un chapeau de forme et un cigare. Ça, c'est fini. C'est des gens qui sont beaux, qui sont sveltes, qui sont en bonne santé, qui transforment leur corps et qui sont à la fois des scientifiques, des financiers, des... Bon,
et qui ne vieilliront jamais.
Ben, en fait, on parle souvent à propos du transhumanisme de la Silicon Valley, de Google, de ces grosses multinationales américaines, avec l'idée qu'au fond, ça c'est un projet qui ne nous concerne pas, nous ici. Et nous, on aimerait assez insister sur le fait que ça n'est pas ça, que le transhumanisme, au fond, pour en arriver tout de suite à la conclusion de notre enquête, la conclusion, c'est que le transhumanisme, c'est l'autre nom des technologies convergentes, c'est-à-dire du stade actuel de l'innovation technologique. Les technologies convergentes, c'est quoi ? C'est les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information, c'est-à-dire l'informatique, et les sciences cognitives, ce qui a trait aux neurotechnologies, au cerveau. Et ça, c'est, je parlais tout à l'heure de la Commission européenne, des technologies clés sur lesquelles il faut investir, on est là-dedans. C'est-à-dire que les investissements aujourd'hui, que ce soit l'argent public ou privé, massifs, se font dans ces domaines-là. Autrement dit, le transhumanisme, qu'il porte ce nom ou pas, qu'il soit affiché ou pas, est en marche à travers les recherches concrètes menées dans les laboratoires. Alors on peut prendre des exemples. Ici à Grenoble, nous on l'a vu émerger depuis déjà de longues années, avec ce fameux laboratoire Clinatech, qui est une clinique du cerveau destinée, disent-il, à nous mettre des nanos dans le cerveau. Donc c'est une clinique qui a quand même un statut très spécial puisqu'elle a été créée par le commissariat à l'énergie atomique en lien avec le CHU de Grenoble sur le site de Minatech, donc pôle de nanotechnologie. C'est une clinique expérimentale. Et qu'est-ce qu'on fait à Clinatech ? On fait principalement deux choses. On fait des implants neuroélectroniques miniaturisés, donc des petits outils électroniques qu'on peut mettre dans le cerveau dans des zones très précises pour avoir une action précise. Donc la première action, au départ, c'était l'idée de calmer les tremblements des malades de Parkinson. Mais en fait, ça s'est très vite dépassé par maintenant des applications qui visent à modifier les humeurs et les comportements, c'est-à-dire du domaine de la psychologie, enfin des applications psychiques. Par exemple, comment modifier le comportement de gens qui ont des troubles alimentaires, boulimiques, anorexiques, ou des addictions. Vous avez un problème avec le tabac, on va vous mettre un implant et ça va vous régler la question. Je caricature. Mais l'idée, c'est qu'on puisse, par l'intermédiaire de ces implants, modifier votre psychologie, vos comportements. Donc ça, c'est une première façon d'hybrider le cerveau et la machine. L'autre aspect, c'est les interfaces homme-machine, cerveau-machine, qui vous permettent, par la pensée, de commander à des machines. Par exemple, les exosquelettes, ces fameux squelettes extérieurs qui vous donnent une force très importante. Mais la communication cerveau-machine marche aussi dans le sens machine-cerveau. D'accord ? Donc on est en train de fabriquer ces fameux hybrides de façon très concrète. Alors on vous donnera toujours la vitrine, ça sera toujours la santé, soigner des malades, etc. Sauf que c'est faux. Même l'Europe, dans des rapports récents, le reconnaît, c'est-à-dire que le marché des applications neuroélectroniques, très largement, maintenant, sort de la santé. C'est-à-dire c'est pour ce qu'ils appellent les applications dites de bien-être, c'est-à-dire les loisirs, c'est-à-dire les jeux vidéo où vous êtes connecté à la machine, et puis tout ce qui est déjà du domaine de l'augmentation des capacités, augmenter votre capacité de concentration, pour rester éveillé 24 heures, travailler, être compétitif quoi, hein, sur le marché du travail, la mémoire aussi, déjà ces choses-là existent.
La vigilance,
etc. Donc en fait, on a dans les laboratoires déjà la fabrique des outils qui vont servir aux transhumanistes, aux transhumains, pour fabriquer ce fameux cyborg. Alors là, je donne cet exemple-là, mais il y a aussi tout ce qui est du domaine de la génétique, toutes les modifications, l'intervention sur le génome, qui sont aussi très remarquées par les transhumanistes, qui espèrent pouvoir intervenir directement au niveau génétique pour modifier les fonctions corporelles. Voilà. Donc ces choses-là se font concrètement dans les laboratoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dire qu'on est transhumaniste pour le faire. Et ici, le patron de Clinatech, enfin l'ex-patron de Clinatech, le seul reproche qu'il fait aux transhumanistes, c'est de donner une mauvaise image aux recherches qu'ils mènent et de risquer d'amener à des contestations.
Voilà. Il suffirait de ne rien dire et ça passerait comme une lettre à la poste.
C'est ce qu'ils disent. En effet, on a eu une expérience un peu particulière il y a quelque temps avec le salon prétendument écologiste Prime Vert de Lyon, qui est donc un salon qui réunit des exposants, etc., et puis qui organise des conférences, et qui avait invité un représentant du mouvement transhumaniste français, puisqu'il y a une association française du transhumanisme. Et quand certains se sont émus de cette invitation, quand même, la réponse des organisateurs du salon a été de dire « Mais aujourd'hui, qui est contre une rétine artificielle ?» par exemple. Et c'est comme ça que le transhumanisme progresse. C'est-à-dire que, par petits bouts, on va vous dire, oui, finalement, et pourquoi pas une rétine artificielle ? Et on donne l'impression comme ça que chacun est pour. Attendez, ça va un peu vite, là. Non seulement c'est pas anodin de mettre une rétine artificielle sur quelqu'un qui souffre de déficience visuelle, mais en plus, le transhumanisme propose de mettre une rétine artificielle à des gens qui ont une vision normale. C'est-à-dire d'augmenter les capacités humaines. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine de la santé. Plus du tout.
Il y a une confusion totale entretenue aussi bien à gauche qu'à droite. C'est d'ailleurs comme ça que la gauche, qui est plutôt généreuse dans son principe, se fait avoir, entre le progrès technologique et le progrès social et humain. Or, il n'y a pas de corrélation entre le progrès technologique et le progrès social et humain. Non seulement il n'y a pas de corrélation, mais c'est même diamétralement opposé.
Oui, la corrélation existe, mais elle serait plutôt inverse.
Elle serait plutôt inverse. Le progrès technologique permet aux dominants, aux riches, aux puissants, d'être sans cesse plus dominants, riches et puissants.
Et aux superflus, d'être sans cesse plus superflus.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc, le progrès technologique entraîne un regret social et humain.
Regret au sens de régression et pas seulement de regret et tristesse.
Non, c'est un bon mot français qu'utilisait déjà Élisée Reclus au XIXe siècle. C'est le mot symétrique, c'est l'antonyme de progrès. Bon, c'est le mot contraire de progrès. Et c'est très très curieux parce que un type comme Orwell, par exemple, dans un texte qu'on a remis en circulation il y a peu de temps, il parle du crapaud ordinaire. Bon, dit mais le socialisme, ça consiste pas à avoir toujours plus. Le problème, c'est pas d'avoir une abondance toujours plus démesurée. C'est pas ça le socialisme. Le socialisme, c'est qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse vivre et qu'on nous laisse le plaisir de vivre et de jouir de ce que nous avons déjà. C'est pas d'avoir toujours plus, c'est de pouvoir partager ce qu'on a déjà. On a assez. On a plus qu'assez.
Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait encore dire nous laisser jouir de ce qu'on a déjà ? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire jouir de ce qu'on a encore ?
J'ai lu un texte de Benjamin Franklin, donc qui s'exprime au début du 19e siècle aux États-Unis. Et qui dit, évidemment, vu les conditions de travail dans les fabriques, tous les gars préfèrent partir dans l'Ouest. Dans l'Ouest, ils peuvent avoir des terres, c'est vide, ils parlent pas des Indiens. Bon, il est clair que sans la misère, il ne peut pas y avoir d'industrie. Hein ? Ça m'amène à dire, il faut rendre la terre aux ouvriers. pas aux paysans, aux ouvriers. Il faut rendre la terre aux ouvriers. La France est largement en friche. Il n'y a jamais eu autant de forêts en France. Donc il faut fermer les usines et rendre la terre aux ouvriers.
Et en effet, dans « Jouir de ce qu'on a encore », vous introduisez une note mélancolique, mais qu'on partage, puisqu'en effet, beaucoup a été détruit. Et effectivement, retourner, souvent on nous dit « vous voulez revenir en arrière » ou que sais-je, mais c'est simplement impossible de revenir en arrière, parce que justement, c'est la politique de la terre brûlée, l'industrie. Et si on voulait revenir en arrière, encore faudrait-il qu'on puisse en avoir les moyens, qu'on ait de l'eau propre dans les rivières, qu'on ait des terres encore en état d'être cultivées, et ça, l'industrie l'a détruit.
Mais alors, pour ne pas rester sur une note mélancolique, justement, comment aller de l'avant sans foncer droit dans le mur? Comment faire en sorte que toute cette armée de superflu, réagisse et sorte de ce piège dans lequel nous sommes tous?
Ce qu'on essaye de dire, c'est que si quelque chose est possible, c'est d'abord, là aussi, c'est enfoncer une porte ouverte, mais ça passe par une prise de conscience. Ce qu'il manque, c'est de la conscience. Et donc, comment faire pour éveiller les consciences, en effet, et sortir de cette torpeur presque hypnotique, hein ? Bon, il faudrait déjà lâcher les écrans. Ça serait déjà couper une source d'hypnose. Bon, mais ce que on n'a pas cessé de dire depuis 15 ans, c'est nous devons produire des idées, parce que ce sont les... En dernière analyse, qu'est-ce qui nous fait agir ? Ce sont les idées. Nous agissons en général mus par une idée.
Produire des idées et des producteurs d'idées, dites-vous.
Oui, c'est ça, parce que la première des autonomies, c'est l'autonomie de penser. Si on veut vraiment revendiquer l'émancipation, c'est d'abord la capacité de penser par soi-même. Donc, on n'a pas, c'est pour ça que nous, à Pièces et Manœuvres, on n'a jamais voulu recruter, faire nombre, etc. Au contraire, on essaye de dire à tout le monde, faites comme nous. Essayez d'être vous aussi producteur d'idées à partir de là où vous êtes, etc. Vous arrivez peut-être par d'autres chemins à trouver d'autres idées. Bon. Mais donc, il faut mettre des idées en circulation et que ces idées finissent par convaincre les cerveaux de manière suffisamment large pour éventuellement arriver à produire un mouvement. Mais dire ça, c'est très compliqué aussi parce que les imaginaires sont saturés. Les imaginaires sont saturés de la publicité, des écrans, d'un lavage de cerveau permanent. Et donc, il nous faut trouver, nous, la voie d'accès au cerveau des gens. Comment leur parler ?
La technologie, peut-être ?
Ben, nous, notre technologie, c'est les mots. Voilà. C'est-à-dire qu'on pense que c'est en cherchant les mots justes, la manière de les agencer de façon la plus juste, que peut-être on arrivera à trouver le chemin vers les cerveaux. Mais il faut... C'est là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'en face, on parlait des transhumanistes tout à l'heure, eux, ils ont un imaginaire très fort qui passe par toute la pop culture. Les jeux vidéo, la bande dessinée, la littérature, le cinéma, etc. sont remplis de cet imaginaire-là. Et pour le spectateur moyen, le cyborg est un compagnon familier, plus que son voisin superflu. Bon. Il nous faut recréer la capacité à se reconnaître dans l'humain. C'est aussi basique que ça.
Non, mais enfin, il y a une chose qui est claire, c'est qu'en même temps que les machines et les robots rendaient la classe ouvrière superflue, par exemple, la classe ouvrière, hein, mais beaucoup d'autres producteurs, et maintenant même les employés, les guichetiers, bon, voilà. L'école qui avait été l'école de la Troisième République, qu'on peut critiquer, mais qui donnait au moins les moyens de la critiquer, et qui avait été le creuset de la formation de cette main-d'œuvre, est complètement sabotée. Ça fait depuis 68, quoi. Bon, que l'école est détruite et chaque année détruite un peu plus, et que on prive les enfants du peuple des moyens de se saisir de leur situation, de comprendre leur situation et par là même d'y pouvoir quelque chose. Donc, moi, je suis tout à fait, d'accord avec les gens qui retournent à la campagne, qui ont le courage de reprendre une exploitation, d'élever un troupeau, etc., qui s'affranchissent matériellement des conditions de vie industrielles. Mais ça ne dépassera pas le cadre de leur personne et de leur existence s'ils ne font pas des petits.
Et donc, comment faire des petits dans cette situation-là ?
Il faut réapprendre la langue, il faut réapprendre à lire et à écrire. Il faut réapprendre le français, il faut réapprendre les vieux français. On ne peut pas comprendre en dehors du langage. Et le langage, c'est de la grammaire et du vocabulaire. et l'art de lier la grammaire et le vocabulaire. Si on n'a pas les mots pour dire les choses, on dit « tu vois ce que je veux dire ». On en revient à l'audiovisuel et aux images. Et ça, c'est le contraire de la pensée. Il ne faut pas être mu par des images, il faut agir à partir de raisonnement, à partir du verbe.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et des liens vers le site de PMO, pièces et main-d'œuvre. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposée par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Philippe Mercher, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.